Puck Jargal de Victor Hugo. Ceci est une lecture de Christophe pour audiocité.net. Préface de l'édition originale. L'épisode qu'on va lire et dont le fond est emprunté à la révolte des esclaves de Saint-Domingue en 1791, a un air de circonstance qui eût suffi pour empêcher l'auteur de le publier. Cependant, une ébauche de cet opuscule, ayant été déjà imprimée et distribuée à un nombre restreint d'exemplaires, en 1820, à une époque où la politique du jour s'occupait fort peu d'Haïti, il est évident que si le sujet qu'il traite a pris depuis un nouveau degré d'intérêt, ce n'est pas la faute de l'auteur. Ce sont les événements qui se sont arrangés pour le livre, et non le livre pour les événements. Quoi qu'il en soit, l'auteur ne songeait pas à tirer de cet ouvrage de l'espèce de demi-jour où il était comme enseveli, mais, averti qu'un libraire de la capitale se proposait de réimprimer son esquisse anonyme, il a cru devoir prévenir cette réimpression en mettant lui-même au jour son travail revu et en quelque sorte refait, précaution qui épargne un ennui à son amour-propre d'auteur et au libraire susdit une mauvaise spéculation. Plusieurs personnes distinguées qui, soit comme colons, soit comme fonctionnaires, ont été mêlés aux troubles de Saint-Domingue, ayant appris la prochaine publication de cet épisode, ont bien voulu communiquer spontanément à l'auteur des matériaux d'autant plus précieux qu'ils sont presque tous inédits. L'auteur leur en témoigne ici sa vive reconnaissance. Ces documents lui ont été singulièrement utiles pour rectifier ce que le récit du capitaine d'Auvernais présentait d'incomplet sous le rapport de la couleur locale, et d'incertain relativement à la vérité historique. Enfin, il doit encore prévenir les lecteurs que l'histoire de Puck Jargal n'est qu'un fragment d'un ouvrage plus étendu qui devait être composé avec le titre de « Conte sous la tente ». L'auteur suppose que, pendant les guerres de la Révolution, plusieurs officiers français conviennent entre eux d'occuper chacun à leur tour la longueur des nuits du bivouac par le récit de quelqu'une de leurs aventures. L'épisode que l'on publie ici faisait partie de cette série de narrations. Il peut en être détaché sans inconvénient, et d'ailleurs l'ouvrage dont il devrait faire partie n'est point fini, ne le sera jamais, et ne vaut pas la peine de l'être. Janvier 1826. Préface de 1832. En 1818, l'auteur de ce livre avait 16 ans. Il paria qu'il écrirait un volume en 15 jours. Il fit Puck Jargal. 16 ans, c'est l'âge où l'on parie pour tout et où l'on improvise sur tout. Ce livre a donc été écrit 2 ans avant Anne d'Islande. Et quoique 7 ans plus tard, en 1825, l'auteur l'ait remanié et réécrit en grande partie, il n'en est pas moins, et par le fond et par beaucoup de détails, le premier ouvrage de l'auteur. Il demande pardon à ses lecteurs de les entretenir de détails si peu importants, mais il a cru que le petit nombre de personnes qui aiment à classer par rang de taille et par ordre de naissance les œuvres d'un poète, si obscurs qu'ils soient, ne lui seraient pas mauvais gré de leur donner l'âge de Puck Jargal. Et, quant à lui, comme ces voyageurs qui se retournent au milieu de leur chemin et cherchent à découvrir encore dans les plis brumeux de l'horizon le lieu d'où ils sont partis, il a voulu donner ici un souvenir à cette époque de sérénité, d'audace et de confiance, où il abordait de front un si immense sujet, la révolte des Noirs de Saint-Domingue en 1791. Lutte de géants, 3 mondes intéressés dans la question, l'Europe et l'Afrique pour combattants, l'Amérique pour champ de bataille. 24 mars 1832. Puck Jargal. Chapitre 1er. Quand vint le tour du capitaine Léopold d'Auvernay, il ouvrit de grands yeux et avoua à ces messieurs qu'il ne connaissait réellement aucun événement de sa vie qui méritât de fixer leur attention. « Mais, capitaine, lui dit le lieutenant Henri, vous avez pourtant, dit-on, voyagé et vu le monde. N'avez-vous pas visité les Antilles, l'Afrique et l'Italie, l'Espagne ? Ah, capitaine, votre chien boiteux ! » D'Auvernay tressaillit, laissa tomber son cigare et se retourna brusquement vers l'entrée de la tente au moment où un chien énorme accourait en boitant vers lui. Le chien écrasa en passant le cigare du capitaine, le capitaine n'y fit nulle attention. Le chien lui lécha les pieds, le flatta avec sa queue, jappa, gambada de son mieux, puis vint se coucher devant lui. Le capitaine, ému, oppressé, le caressait machinalement de la main gauche, en détachant de l'autre la mentonnière de son casque, et répétait de temps en temps « Te voilà, Rasque ! Te voilà !» Enfin il s'écria « Mais qui donc t'a ramené ?»« Avec votre permission, mon capitaine ?» Depuis quelques minutes, le sergent Thaddée avait soulevé le rideau de la tente et se tenait debout, le bras droit enveloppé dans sa redingote, les larmes aux yeux, et contemplant en silence le dénouement de l'Odyssée. Il hasarda à la fin ces paroles « Avec votre permission, mon capitaine !» D'Auvernay leva les yeux. « C'est toi, Thad ? Et comment diable as-tu pu ? Pauvre chien ! Je le croyais dans le camp anglais. Où donc l'as-tu trouvé ? Dieu merci, vous m'envoyez, mon capitaine, aussi joyeux que monsieur votre neveu, quand vous lui faisiez décliner cornu, la corne, cornu, de la corne. Mais dis-moi donc où tu l'as trouvé. Je ne l'ai pas trouvé, mon capitaine. J'ai bien été le chercher. Le capitaine se leva et tendit la main au sergent, mais la main du sergent resta enveloppée dans sa redingote. Le capitaine n'y prit point garde. « C'est que, voyez-vous, mon capitaine, depuis que ce pauvre Rasque s'est perdu, je me suis bien aperçu, avec votre permission, s'il vous plaît, qu'il vous manquait quelque chose. Pour tout vous dire, je crois que le soir où il ne vint pas, comme à l'ordinaire, partager mon pain de munitions, peu s'en fallut que le deux Thad ne se prît à pleurer comme un enfant. Mais non. Dieu merci, je n'ai pleuré que deux fois dans ma vie. La première, quand... le jour où... » Et le sergent regardait son maître avec inquiétude. La seconde, lorsqu'il prit l'idée à ce drôle de Balthazar, caporal dans la 7e demi-brigade, de me faire éplucher une botte d'oignon. « Il me semble, Thaddée, s'écria en riant Henri, que vous ne dites pas à quelle occasion vous pleurâtes pour la première fois. » C'est sans doute, mon vieux, quand tu reçus l'accolade de la tour d'Auvergne, premier grenadier de France, demanda avec affection le capitaine, continuant à caresser le chien. Non, mon capitaine, si le sergent Thaddée a pu pleurer, ça n'a pu être, et vous en conviendrez, que le jour où il a crié feu sur Bugjargal, autrement dit Pierrot. Un nuage se répandit sur tous les traits de d'Auvernay. Il s'approcha vivement du sergent et voulut lui serrer la main, mais, malgré un tel excès d'honneur, le vieux Thaddée la retint sous sa capote. « Oui, mon capitaine, » continua Thaddée, en reculant de quelques pas, tandis que d'Auvernay fixait sur lui des regards pleins d'une expression pénible. « Oui, j'ai pleuré cette fois-là. Aussi, vraiment, il le méritait bien. Il était noir. Cela est vrai, mais la poudre à canon est noire aussi, et... » Le bon sergent aurait bien voulu achever honorablement sa bizarre comparaison. Il y avait peut-être quelque chose dans ce rapprochement qui plaisait à sa pensée, mais il essaya inutilement de l'exprimer. Et après avoir plusieurs fois attaqué, pour ainsi dire, son idée dans tous les sens, comme un général d'armée qui échoue contre une place forte, il enleva brusquement le siège et poursuivit sans prendre garde au sourire des jeunes officiers qui l'écoutaient. « Dites, mon capitaine, vous souvient-il de ce pauvre nègre, quand il arriva tout essoufflé, à l'instant même où ses 10 camarades étaient là ? Vraiment, il avait bien fallu les lier. C'était moi qui commandais. Et quand il les détacha lui-même pour reprendre leur place, quoiqu'ils ne le voulussent pas. Mais il fut inflexible. Oh, quel homme ! C'était un vrai Gibraltar. Et puis, dites, mon capitaine, quand il se tenait là, droit comme s'il allait entrer en danse, et son chien, le même rasque qui est ici, qui comprit ce qu'on allait lui faire et qui me sauta à la gorge. Ordinairement, Tad, interrompit le capitaine, tu ne laissais point passer cet endroit de ton récit sans faire quelques caresses à Rasque. Vois comme il te regarde. Vous avez raison, dit Thaddée avec embarras. Il me regarde, ce pauvre Rasque, mais la vieille Malagrida m'a dit que caresser de la main gauche porte malheur. Et pourquoi pas de la main droite ? Demanda d'Auvernet avec surprise, et remarquant pour la première fois la main enveloppée dans la redingote et la pâleur répandue sur le visage de Tad, le trouble du sergent parut redoubler. « Avec votre permission, mon capitaine, c'est que vous avez déjà un chien boiteux. Je crains que vous ne finissiez par avoir aussi un sergent manchot. » Le capitaine s'élança de son siège. « Comment ? Quoi ? Que dis-tu, mon vieux Thaddée ? Manchot ? Voyons ton bras. Manchot, grand Dieu ! » D'Auvernet tremblait. Le sergent déroula lentement son manteau et offrit aux yeux de son chef son bras enveloppé d'un mouchoir ensanglanté. « Eh mon Dieu !» murmura le capitaine en soulevant le linge avec précaution. « Mais, dis-moi donc, mon ancien, oh, la chose est toute simple. Je vous ai dit que j'avais remarqué votre chagrin depuis que ces maudits Anglais nous avaient enlevé votre beau chien, ce pauvre Rasque, le doc de Bugues. Il suffit. Je résolus aujourd'hui de le ramener. » Dût-il m'en coûter la vie, afin de souper ce soir de bon appétit. C'est pourquoi, après avoir recommandé à Matelet, votre soldat, de bien brosser votre grand uniforme, parce que c'est demain jour de bataille, je me suis esquivé tout doucement du camp, armé seulement de mon sabre, et j'ai pris à travers les haies pour être plutôt au camp des Anglais. Je n'étais pas encore au premier retranchement quand, avec votre permission, mon capitaine, dans un petit bois sur la gauche, j'ai vu un grand attroupement de soldats rouges. Je me suis avancé pour flairer ce que c'était, et comme ils ne prenaient pas garde à moi, j'ai aperçu au milieu d'eux Rasque attaché à un arbre, tandis que 2000 Milords, nus jusqu'ici comme des païens, se donnaient sur les os de grands coups de poing qui faisaient autant de bruit que la grosse caisse d'une demi-brigade. C'étaient deux particuliers anglais, s'il vous plaît, qui se battaient en duel pour votre chien. Mais voilà Rasque qui me voit et qui donne un tel coup de collier que la corde casse et que le drôle est en un clin d'œil sur mes trousses. Vous pensez bien que toute l'autre bande ne reste pas en arrière. Je m'enfonce dans les bois, Rasque me suit. Plusieurs balles sifflent à mes oreilles, Rasque aboyait. Mais heureusement, ils ne pouvaient pas l'entendre à cause de leur cri de « French dog, French dog ». Comme si votre chien n'était pas un beau et bon chien de Saint-Domingue. N'importe, je traverse le hallier et j'étais prêt d'en sortir quand deux rouges se présentent devant moi. Mon sabre me débarrasse de l'un et m'aurait sans doute délivré de l'autre si son pistolet n'eût été chargé à balles. Vous voyez mon bras droit. N'importe. French Dog lui a sauté au cou, comme une ancienne connaissance, et je vous réponds que l'embrassement a été rude. L'anglais est tombé étranglé aussi. Pourquoi ce diable d'homme s'acharnait-il après moi, comme un pauvre après un séminariste ? Enfin, Tad est de retour au camp, et Rask aussi. Mon seul regret, c'est que le bon Dieu n'ait pas voulu m'envoyer plutôt cela à la bataille de demain. Voilà. Les traits du vieux sergent s'étaient rembrunis à l'idée de n'avoir point eu sa blessure dans une bataille. « Thaddée ! » cria le capitaine d'un ton irrité, puis il ajouta plus doucement. « Comment es-tu fou à ce point de t'exposer ainsi pour un chien ?»«
Ce n'était pas pour un chien, mon capitaine, c'était pour Rask. » Le visage de d'Auvernet se radoucit tout à fait. Le sergent continua.
« Pour Rask ? Le doc de Bugue ?»«
Assez, assez, mon vieux Tad !» cria le capitaine en mettant la main sur ses yeux. « Allons » ajouta-t-il après un court silence. « Appuie-toi sur moi et viens à l'ambulance. »
Thaddée obéit après une résistance respectueuse. Le chien qui, pendant cette scène, avait à moitié rongé de joie la belle peau d'ours de son maître, se leva et les suivit tous deux. Chapitre 2. Cet épisode avait vivement excité l'attention et la curiosité des joyeux conteurs. Le capitaine Léopold d'Auvernay était un de ces hommes qui, sur quelque échelon que le hasard de la nature et le mouvement de la société les aient placés, inspirent toujours un certain respect mêlé d'intérêt. Il n'avait cependant peut-être rien de frappant au premier abord. Ses manières étaient froides, son regard indifférent. Le soleil des tropiques, en brunissant son visage, ne lui avait point donné cette vivacité de gestes et de paroles qui s'unit chez les créoles à une nonchalance souvent pleine de grâce. D'Auvernay parlait peu, écoutait rarement, et se montrait sans cesse prêt à agir. Toujours le premier à cheval et le dernier sous la tente, il semblait chercher dans les fatigues corporelles une distraction à ses pensées. Ces pensées, qui avaient gravé leur triste sévérité dans les rides précoces de son front, n'étaient pas de celles dont on se débarrasse en les communiquant, ni de celles qui, dans une conversation frivole, se mêlent volontiers aux idées d'autrui. Léopold d'Auvernay, dont les travaux de la guerre ne pouvaient rompre le corps, paraissait éprouver une fatigue insupportable dans ce que nous appelons les luttes d'esprit. Il fuyait les discussions comme il cherchait les batailles. Si quelquefois il se laissait entraîner à un débat de paroles, il prononçait trois ou quatre mots pleins de sens et de haute raison, puis, au moment de convaincre son adversaire, il s'arrêtait tout court en disant « À quoi bon ?» et sortait pour demander au commandant ce qu'on pourrait faire en attendant l'heure de la charge ou de l'assaut. Ses camarades excusaient ses habitudes froides, réservées et taciturnes, parce qu'en toute occasion ils le trouvaient brave, bon et bienveillant. Il avait sauvé la vie de plusieurs d'entre eux au risque de la sienne, et l'on savait que s'il ouvrait rarement la bouche, sa bourse du moins n'était jamais fermée. On l'aimait dans l'armée, et on lui pardonnait même de se faire en quelque sorte vénérer. Cependant, il était jeune. On lui eût donné 30 ans, et il était loin encore de les avoir, quoiqu'il combattît déjà depuis un certain temps dans les rangs républicains. On ignorait ses aventures. Le seul être qui, avec Rask, put lui arracher quelques vives démonstrations d'attachement, le bon vieux sergent Thaddée, qui était entré avec lui au corps et ne le quittait pas, comptait parfois vaguement quelques circonstances de sa vie. On savait que d'Auvernay avait éprouvé de grands malheurs en Amérique, que s'étant marié à Saint-Domingue, il avait perdu sa femme et toute sa famille au milieu des massacres qui avaient marqué l'invasion de la Révolution dans cette magnifique colonie. À cette époque de notre histoire, les infortunes de ce genre étaient si communes qu'il s'était formé pour elles une espèce de pitié générale dans laquelle chacun prenait et apportait sa part.
On plaignait donc le capitaine d'Auvernais, moins pour les pertes qu'il avait souffertes que pour sa manière de les souffrir. C'est qu'en effet, à travers son indifférence glaciale, on voyait quelquefois les tressaillements d'une plaie incurable et intérieure. Dès que la bataille commençait, son front redevenait serein. Il se montrait intrépide dans l'action, comme s'il eût cherché à devenir général, et modeste après la victoire, comme s'il n'eût voulu être que simple soldat. Ses camarades, en lui voyant ce dédain des honneurs et des grades, ne comprenaient pas pourquoi, avant le combat, il paraissait espérer quelque chose, et il ne devinait point que d'Auvernais, de toutes les chances de la guerre, ne désirait que la mort. Les représentants du peuple en mission à l'armée le nommèrent un jour chef de brigade sur le champ de bataille. Il refusa, parce qu'en se séparant de la compagnie, il aurait fallu quitter le sergent Thaddée. Quelques jours après, il s'offrit pour conduire une expédition hasardeuse, et en revint contre l'attente générale et contre son espérance. On l'entendit alors regretter le grade qu'il avait refusé, car, disait-il, « puisque le canon ennemi ne m'épargne toujours, la guillotine, qui frappe tous ceux qui s'élèvent, aurait peut-être voulu de moi. » Chapitre 3. Tel était l'homme sur le compte duquel s'engagea la conversation suivante quand il fut sorti de la tente. « Je parierais, » s'écria le lieutenant Henri en essuyant sa botte rouge sur laquelle le chien avait laissé en passant une large tache de boue, « je parierais que le capitaine ne donnerait pas la patte cassée de son chien pour ces 10 paniers de madère que nous entrevîmes l'autre jour dans le grand fourgon du général. « Chut, chut !» dit gaiement l'aide-de-camp Pachal. « Ce serait un mauvais marché. Les paniers sont à présent vides, j'en sais quelque chose. » Et, ajouta-t-il d'un air sérieux, « 30 bouteilles décachetées ne valent certainement pas, vous en conviendrez, lieutenant, la patte de ce pauvre chien, patte dont on pourrait, après tout, faire une poignée de sonnettes. » L'assemblée se mit à rire du ton grave dont l'aide-de-camp prononçait ces dernières paroles. Le jeune officier des hussards basques, Alfred, qui seul n'avait pas ri, prit un air mécontent. « Je ne vois pas, messieurs, ce qui peut prêter à la raillerie dans ce qui vient de se passer. Ce chien et ce sergent, que j'ai toujours vu auprès de d'Auvernay, depuis que je le connais, me semble plutôt susceptible de faire naître quelque intérêt. » Pachal, piqué et du mécontentement d'Alfred et de la bonne humeur des autres, l'interrompit. Cette scène est très sentimentale. Comment donc? Un chien retrouvé et un bras cassé. Capitaine Pachal, vous avez tort, dit Henri en jetant hors de la tente la bouteille qu'il venait de vider. Ce bugue, autrement dit Pierrot, pique singulièrement ma curiosité. Pachal, prêt à se fâcher, s'apaisa en remarquant que son verre, qu'il croyait vide, était plein. D'Auvernay rentra. Il alla se rasseoir à sa place sans prononcer une parole. Son air était pensif, mais son visage était plus calme. Il paraissait si préoccupé qu'il n'entendait rien de ce qui se disait autour de lui. Rask, qui l'avait suivi, se coucha à ses pieds en le regardant d'un air inquiet. « Votre verre, capitaine d'Auvernay, goûtez de celui-ci. Oh, grâce à Dieu !» dit le capitaine, croyant répondre à la question de Pachal. « La blessure n'est pas dangereuse, le bras n'est pas cassé. » Le respect involontaire que le capitaine inspirait à tous ses compagnons d'armes contint seul l'éclat de rire prêt à éclore sur les lèvres de Henri. « Puisque vous n'êtes plus aussi inquiet de Thaddée, dit-il, et que nous sommes convenus de raconter chacun une de nos aventures pour abréger cette nuit de bivouac, j'espère, mon cher ami, que vous voudrez bien remplir votre engagement en nous disant l'histoire de votre chien boiteux et de Bugues je ne sais comment, autrement dit Pierrot, ce vrai Gibraltar. » À cette question faite d'un ton moitié sérieux, moitié plaisant, d'Auvernais n'aurait rien répondu si tous n'eussent joint leurs instances à celles du lieutenant. Il céda enfin à leur prière. « Je vais vous satisfaire, messieurs, mais n'attendez que le récit d'une anecdote toute simple, dans laquelle je ne joue qu'un rôle très secondaire. Si l'attachement qui existe entre Thaddée, Rask et moi vous a fait espérer quelque chose d'extraordinaire, je vous préviens que vous vous trompez. Je commence. » Alors il se fit un grand silence. Paschal vida d'un trait sa gourde d'eau-de-vie, et Henri s'enveloppa de la peau d'ours à demi rongée pour se garantir du frais de la nuit, tandis qu'Alfred achevait de fredonner l'air galicien de Mataperos. D'Auvernais resta un moment songeur, comme pour rappeler à son souvenir des événements depuis longtemps remplacé par d'autres. Enfin, il prit la parole, lentement, presque à voix basse et avec des pauses fréquentes.